Science en question par Étienne Klein. Aujourd'hui, comment se passe la vie palpitante des sols ? Dans son livre « La naissance du jour », Colette annonçait le sujet de notre émission bien mieux que je ne pourrais le faire. Elle écrit « Soulever, pénétrer, déchirer la terre est un labeur, un plaisir » qui ne va pas sans une exaltation que nulle stérile gymnastique ne peut connaître. Le dessous de la terre, entrevue, rend attentifs et avides tous ceux qui vivent sur elle. Les pinsons me suivaient, fondant sur les vers avec un cri. Les chats humaient ce peu d'humidité qui brunit les mottes friables. La chienne grisée forait à toutes pattes son terrier personnel. À ouvrir la terre, ne fût-ce que l'espace d'un carré de chou, on se sent toujours le premier, le maître, l'époux sans rivaux. La terre qu'on ouvre n'a plus de passé, elle ne se fie qu'au futur. Fin de citation. Je me contenterai d'ajouter à cette mise en appétit que le sol terrestre, outre qu'il nous porte et nous nourrit, régule le cours des rivières et modifie le climat. Mais oublieux qu'il a une épaisseur et même une profondeur qui abrite toutes sortes de rôles et de péripéties, nous ne nous penchons guère sur ce qui fourmille en son sein. Animaux, plantes, microbes, bactéries, qui se nourrissent sous terre de façon incroyablement variée et souvent en s'entremangeant. Mais quelle est au juste la vie de ce sol pas si mineur, que nous piétinons comme s'il ne s'y passait rien? Pour répondre à cette question qui est vaste, j'ai le plaisir de recevoir en direct et en studio Marc-André Solos. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur au Muséum d'Histoire Naturelle et vous êtes auteur d'un livre qui répond à la question posée, qui s'intitule « L'origine du monde, une histoire du sol à l'intention de ceux qui le piétinent », ouvrage qui vient de paraître aux éditions Actes Sud. Alors j'ai cité Marc-André Solos, ce texte de Colette, que j'ai pas trouvé tout seul, je l'ai cité parce que je suis bien entouré. Colette parlait de la naissance du jour, vous parlez de l'origine du monde. Il y a un petit saut quantique entre les deux. Est-ce que vous n'y allez pas un peu fort? Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous approprier le Big Bang?
Alors je m'approprie surtout le titre d'une œuvre majeure pour un livre qui est quand même, il faut être plein d'humilité, une œuvre mineure. Mais au-delà de ça, je suis convaincu de la pertinence de mon titre. Ça ne veut pas dire que le monde n'a pas existé avant, et c'est pas un physicien que je vais expliquer que le monde n'a pas attendu le sol pour exister. Mais le monde tel que nous le connaissons sur Terre, notre monde, notre quotidien, il est vraiment façonné par ça. Et donc c'est bel et bien l'origine du monde tel que nous le vivons, tel que nous le connaissons, et tel que, et c'est un des aspects du livre aussi qui est important, nous devons essayer de le préserver, de le rendre assez durable pour que nos enfants puissent en profiter.
Mais quel est votre métier? Vous êtes biologiste?
Oui, oui.
Qu'est-ce qui vous a intéressé dans les sols?
C'est que c'est vivant. Enfin, c'est vrai que quand j'ai eu ma formation universitaire au tout départ, les sols, c'était un peu des éponges physico-chimiques où on pouvait mettre des engrais minéraux, où on mettait de l'eau, puis les plantes poussaient. Il y avait un petit côté inerte. On savait qu'il y avait des microbes, mais c'est un peu comme s'ils étaient là en plus. Et en fait, ce qui a émergé à la fin du 20e siècle, c'est vraiment que ces microbes et le reste de la vie du sol, aussi partiellement avec des rôles des animaux et des racines, c'est ça qui fabrique le sol. Alors, moi-même, j'étais mycologue quand j'étais plus jeune. Enfin, je veux dire, des 12 ans, j'ai commencé à identifier des champignons. Bon, c'était vraiment mon truc. Et ils m'ont conduit vers le sol de la façon suivante. Ce qu'on ramasse, c'est la partie reproductrice. Ça fait des spores qui vont germer un peu plus loin. Mais si ça pousse si vite, c'est que ça pousse en fait sur un réseau souterrain, ce qu'on appelle le mycélium, qui lui est là tout le temps. Et en élaborant ma connaissance des champignons, je suis arrivé au mycélium et je suis arrivé sous terre. En fait, les champignons m'ont happé, un peu comme le lapin d'Alice au Pays des Merveilles, happe Alice vers le fond du sol. Moi, j'ai été happé par les champignons vers cette vie du sol, à un moment où, et pas seulement grâce à mes travaux, mais en partie avec certains de mes travaux, on s'est rendu compte que c'est là que ça se passait et que nous autres, terrestres, ou hommes et animaux de surface, nous sommes que des banlieusards du...
Avant de lire votre livre, je ne connaissais rien à votre sujet, donc j'ai tout appris en le découvrant cette semaine. Je vais donc pas faire le mariole et me contenter de vous poser timidement quelques questions. La première étant, l'épaisseur du sol, c'est combien?
Alors ce qu'on appelle intuitivement un sol, ça a toujours une épaisseur, une certaine épaisseur qui peut aller d'une trentaine de centimètres jusqu'à dans la Beauce 5-6 mètres. Et puis dans les zones tropicales, alors là où les processus sont poussé par l'humidité et la chaleur, on peut arriver jusqu'à 100 mètres de profondeur. Mais en fait, ce que j'explique dans le livre, c'est que déjà une façade où il y a une espèce de petite croûte de d'algues qui se développe. Vous savez, ces revêtements un peu bleu-gris qu'on a sur les façades où il y a quelques bactéries fixatrices d'azote, quelques plantes photosynthétiques et puis quelques parasites de ça. En fait, ça commence déjà de fonctionner comme un sol. Il faut voir que le sol, c'est le revêtement qui a sur toute la matière minérale de tout le globe, il est plus ou moins épais, et il fait l'interface entre la roche et l'atmosphère. Et en fait, il est plein de vie.
Donc il y a toutes sortes d'épaisseurs de sol, si j'ose dire. Alors il a souvent mauvaise réputation, le sol, non ? Il souille des chaussures, etc. Et d'ailleurs, d'où vient qu'on dit qu'en général, il est sale ? On se crotte avec le sol ?
Alors le constat, il est exact. Hein. Quand on s'enterre quelque part, quand on traite quelqu'un de cutéreux, c'est pas positif. C'est ce qui est bizarre d'ailleurs, parce que cutéreux, ça veut dire qu'on manipule le sol et donc on est en train de nourrir l'humanité. Mais bon, alors d'où ça vient ? Moi, je me suis beaucoup interrogé là-dessus, mais pas probablement avec la culture historique ou philosophique nécessaire. Mais ce que je remarque, c'est quand même là qu'on place nos déchets et nos morts. Donc ça, c'est pas très engageant. Mais je vois aussi deux autres défis épistémologiques. Le premier, c'est que c'est pas transparent. Donc effectivement, quand vous croyez voir les écosystèmes terrestres, ben vous ne voyez pas toute la partie qui est sous la surface du sol, parce que c'est pas transparent. Et puis même si c'était transparent, et même quand on en a dans la main comme Colette, en fait, on ne voit pas l'essentiel des habitants qui sont microbiens. Bon, vous prenez un hectare de sol de chez nous.
Ils sont incroyablement nombreux.
Alors, ils sont nombreux. Dans un gramme de sol de chez nous, vous avez quand même plusieurs milliers d'espèces de bactéries, un bon millier d'espèces de champignons, et puis plusieurs centaines de ces organismes à cellules qui se déforment là et qui se déforment pour avaler des bactéries ou pour se déplacer, les amibes. On connaît les plus grosses sous le nom de blobs, d'ailleurs. Et donc, alors évidemment, un gramme pour eux, pour ces microbes, c'est Paris et la grande banlieue pour moi. Donc c'est normal qu'on puisse en mettre beaucoup. Et au total, dans un hectare alors j'allais dire un hectare de sol, sous un hectare de chez nous, on a l'équivalent de 5 tonnes de microbes. Bactéries, champignons, amibes, 5 tonnes de racines, parce qu'il ne faut pas oublier que les plantes, le tiers de leur masse est souterraine, et 1,5 tonne d'animaux. Ça fait entre 100 et 200 moutons, selon la taille de vos moutons, 100 et 250 moutons, enterrés sous chaque hectare autour de chez nous. Et pourtant, nul ne voit cela.
Ça veut dire qu'il y a une partie de ce qu'on appelle la biodiversité qui est enfouie là.
Ben voilà, c'est exactement ça. D'ailleurs, le quart des espèces connues vivent dans les sols, le quart des espèces qui ont un nom. Et on sait très bien aujourd'hui, parce que notre connaissance des sols a beaucoup avancé, en cessant d'essayer de cultiver les organismes du sol ou de les voir à l'œil nu pour les identifier, mais en les identifiant sur la base de leur ADN. On extrait tout l'ADN du sol et à base de cet ADN, on détermine quelles espèces sont là, y compris des espèces qu'on ne connaît pas, mais que par leur ADN, on peut affilier plus ou moins, de façon plus ou moins proche à d'autres groupes ou d'autres espèces connues. Et on sait qu'en fait, on ne connaît que moins de 1% des microbes du sol. Et je vais vous dire, les virus du sol...
Pour les connaître, c'est pouvoir leur donner un nom, c'est ça ?
Alors, les connaître, c'est savoir qu'ils existent. Classiquement, c'était aussi pouvoir leur donner un nom. Mais maintenant, nous autres microbiologistes du sol, mais comme les microbiologistes d'ailleurs des eaux, ou les microbiologistes qui étudient le microbiote humain, celui du tube digestif par exemple, nous savons maintenant manipuler ces espèces sans les avoir vues, sans les avoir cultivées, simplement avec leurs gènes, qui nous permettent de savoir qu'elles sont là, et en plus avec leurs gènes qui nous permettent de deviner un peu ce qu'elles doivent faire. Pas avec une résolution énorme, mais ça nous permet quand même de nous projeter dans ce qu'elles sont sans même les avoir cultivées, sans même vraiment les avoir vues. Et ça, on découvre que ce qui a été vu, nommé, cultivé, c'est moins de 1% des microbes du sol.
Alors dans les premières pages de votre livre, Marc-André Solas, vous parlez du labour.
Oui.
Et d'ailleurs, on apprend un mot, enfin moi j'adore apprendre des nouveaux mots, et avec vous j'ai été servi. Hein. Dans les 500 pages du livre, il y a beaucoup de mots que je découvre, notamment le mot de scopélisme. Qu'est-ce que c'est que le scopélisme ?
C'est un autre terme pour mauvais voisinage.
Ça consiste... Oui, mais enfin, qui consiste à agir, pas simplement à médire.
Alors, le labour, en fait, il va remonter les gros objets qui sont enterrés dans le sol. Et ça, d'ailleurs, c'est quelque chose qui se passe jamais normalement, et ça montre bien que le labour, c'est un mécanisme qui est pas vraiment équivalent au mécanisme naturel. Je vous explique. Vous soulevez le sol par le labour, et chaque fois qu'un gros objet est soulevé, il y a une forte probabilité qu'il retombe pas à sa place parce qu'un plus petit clou va se glisser dessous. Et de proche en proche, les gros objets remontent et les petits descendent.
Vous voulez dire que le labour est une force antigravitationnelle ?
Oui. Il faut quand même mettre de l'énergie, donc c'est pas un miracle. Mais au bilan, vous vous retrouvez avec des pierres qui sortent de terre. Moi, quand j'étais petit en Bretagne, on me disait que le sol pelait. Bon, et il faut s'en débarrasser. Et une bonne façon de s'en débarrasser, c'est de faire des monceaux de pierres, hein, des cairns, des... il y en a beaucoup dans le sud de la France en terrain calcaire, mais l'autre façon de s'en débarrasser, c'est de les bazarder chez le voisin.
Et c'est ça qu'on appelle le scopélisme.
Exactement.
Et alors, d'où vient la couleur des sols? Vous avez un chapitre consacré à cette question qui est passionnant, je ne vais pas le révéler à votre place.
Alors, bon, parce que justement, ce que j'essaie de faire, et là je rejoins l'approche que Colette a, elle a d'autres passages de son œuvre d'ailleurs, où elle décrit les odeurs, elle flaire le sol, elle décrit les odeurs. Je me suis permis d'ailleurs,
aussi.
C'est dissimulé vers la fin, de parodier un de ses textes dans la toute fin du livre. Mais c'est discret et pas explicite. En tout cas, mais c'est une sorte d'hommage parce que, effectivement, moi j'essaie voilà, de mobiliser les sens. L'odeur, la vue. Et c'est vrai que les couleurs des sols, bon, rarement on creuse, mais c'est extraordinairement varié. Alors il y a un pôle noir, c'est la matière organique. Plus il y a de matière organique, plus ce sera noir.
Est-ce qu'on peut la définir? Parce que vous donnez une définition que matière organique, c'est des molécules qui reviennent du carbone, mais il faut que les carbones, les atomes soient reliés entre eux, voilà. Chimiquement.
Alors, c'est donc un gros CO2, débat, parce que là, sur cette définition, il y a quelques collègues qui vont dire « Oh, t'exagères, parce que bon... » Il y a plusieurs définitions, mais une des définitions, c'est la matière, où effectivement, il y a des liens entre des atomes de carbone.
Par exemple, le CO2, c'est pas de la matière organique.
Voilà, le méthane, non plus, puisqu'il n'y a qu'un seul carbone. Par contre, un sucre, de la matière grasse, une protéine, tout ça, c'est de la matière organique. Ou ces molécules bien moins caractérisées, à vrai dire, c'est un continent inconnu de diversité chimique, ça. Ces molécules extraordinairement diverses et mal caractérisées qu'on a dans les sols et qui font la couleur noire. Après, vous avez le fer.
Noir quand la matière organique est morte.
Oui, quand elle est morte. Oui, parce que.
Alors pourquoi c'est noir quand elle est morte?
Bah, en fait, alors c'est tout bête. C'est que chaque molécule absorbe certaines longueurs d'onde. Mais quand vous avez énormément de molécules différentes, bah, quelle que soit la longueur d'onde, il y a quelqu'un qui la chope. Et donc, à la fin.
C'est noir.
Bah, c'est noir. Le fer, il est rouge. Il amène cette couleur. Ah, attention, il est rouge en conditions oxydantes, c'est-à-dire quand il y a de l'oxygène. Mais alors, si jamais vous êtes dans un sol inondé, alors il bleuit. Parce que le fer ferreux, le fer en absence d'oxygène, donc le fer réduit, comme on dit techniquement, il est bleuté. Il est d'autant plus bleuté qu'il s'intègre rapidement à quelque chose qui a été découvert, plus exactement décrit sur des sols près de Fougères, en France, la fougérite. Et ces sols-là, ils ont des bleus assez intéressants, hein, des bleus sombres. Donc voilà, puis il y a toutes sortes de couleurs intermédiaires qui dépendent des roches sur lesquelles ça se développe. Puis il y a aussi toutes les odeurs. Hein. D'ailleurs, l'odeur de terre, cette odeur de terre qui est très caractéristique, qu'on retrouve dans les caves, c'est dû à la géosmine. Le grec parle lui-même, hein, l'odeur de sol. C'est une molécule qui est fabriquée par des bactéries du sol, des actinobactéries. Tout le monde a senti l'odeur de terre. Tout le monde l'a aussi senti sous sa variété. Quand il a plu, l'air du sol s'exhale et se dilue dans l'atmosphère. Et ça donne ce qu'on appelle le pétrichore, cette odeur d'après la pluie. Donc c'est marrant parce que les actinobactéries, pour le coup, c'est des bactéries que tout le monde a senties sans savoir ce que c'est. Alors c'est bizarre de connaître l'odeur de quelqu'un sans savoir qui c'est, mais c'est le cas. Et il y a d'autres sols, au contraire, où il y a des odeurs de champignons qui s'exhalent. Ça, c'est des sols où domine la présence de champignons, avec une molécule, l'octénol, qui est produite par les filaments de champignons blessés. Et finalement, un bon spécialiste de la microbiologie des sols, il peut, en flairant un sol, savoir si c'est un sol dont la logique vivante est dominée par des bactéries ou s'il est dominé par des champignons. Et c'est à l'odeur.
Et la fermeté du sol, elle dépend de quoi? Vous racontez que, je crois que vous faites de la course à pied.
Oui.
Vous avez beaucoup couru sur le bitume. Et grâce au confinement, vous avez découvert qu'on peut courir en forêt.
J'ai pu aller
et
plus loin.
Et que dans ce cas, les courbatures sont moins intenses et moins durables que quand on court. Alors ça s'explique comment ça?
Bah, c'est tout bête. Le sol est plus souple. D'ailleurs, si j'avais bêtement couru dans des rues et couru dans des stades sur des revêtements ad hoc, j'aurais pas fait une telle découverte.
Alors, il suffisait de demander. Hein.
Oui, il suffisait de demander. Mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, quand vous avez un sol où il y a du, vous êtes sur un sol, il y a une sorte de souplesse. D'ailleurs, les spécialistes savent la caractériser en fonction du temps et de l'humidité sur les terrains de foot, par exemple. Et en fait, c'est qu'il y a des trous dans le sol. Effectivement, quand on court sur du sol, bah, ces trous, bah, ils s'enfoncent, ils s'écrasent. Alors, si c'est un sol où il y a beaucoup de matière organique, il y a une certaine élasticité des trous, donc ils se regonflent.
Ça revient.
Par contre, si vous roulez au tracteur sur un sol où il n'y a pas de matière organique, bon, bah là, vous écrabouillez tous les trous. Et alors, c'est dommage, parce que dans les trous, il y a l'eau et il y a l'air qui permet la vie du sol.
Justement, à propos de l'eau, enfin, de l'eau de pluie, J'ai découvert que une partie de l'eau de pluie fait demi-tour dans le sol.
Oui.
Alors c'est une expression qu'il faut expliquer évidemment. Comment est-ce que l'eau peut faire demi-tour, c'est-à-dire remonter vers le haut, comme si là encore elle défiait la gravité.
Ouais, c'est oui, c'est pas normal du tout. Bon, avant qu'il y ait des sols sur Terre, quand il pleuvait, il y avait une lame d'eau qui déferlait vers l'aval, qui arrachait tout ce qui pouvait être arraché au relief et qui étalait ça dans de vastes plaines de gravier, de gravillons et d'argile. Sur lesquels il n'y avait pas vraiment de cours d'eau parce que ça déferlait à toute vitesse. Ces plaines-là, où arrivaient tous les morceaux, ressemblaient aux plages à marée basse avec ces entrelacs de rigoles qui retournent vers la mer. Quand il y a eu des sols, les sols c'est plein de trous, on vient de le dire. C'est des trous qui sont liés à l'activité des êtres vivants, hein, qui sont dedans, par exemple les vers de terre, ou bien une racine qui meurt et qui laisse un trou. Et ces trous, en fait, l'eau passe dans ces trous et d'une part certains sont petits et retiennent l'eau. D'autre part, d'autres sont pas trop petits et l'eau circule, mais le temps qu'elle trouve la sortie, ben, ça prend un certain temps. Et ça donne le temps aux plantes de prendre cette eau par le biais de leurs racines et de s'en servir pour faire monter la sève. Parce que je vous rappelle que quand on est en été sous une plante, il fait frais.
Mais comment est-ce que l'eau arrive à monter, enfin, à pénétrer dans les racines ?
Alors ça, c'est quelque chose qui n'est pas encore complètement bien connu, mais il y a quand même des modèles là-dessus. En fait, il semblerait que les vaisseaux dans lesquels circule la sève soient autant de capillaires, c'est-à-dire de petits tubes.
Donc l'eau monte par capillarité.
Exactement, comme quand vous mettez par exemple un Kleenex dans un café, vous voyez que le café monte. Alors, bon, bien sûr, il y a un peu d'affinité du coton de votre Kleenex pour le café, mais il y a aussi que ça monte en peuplant les petits trous. Donc il semblerait que la plante soit imbibée, parce que ses vaisseaux sont très petits, donc elle est imbibée de sève, et cette sève s'évapore dans les feuilles. Là, c'est une des façons dont la plante consomme d'ailleurs l'énergie du soleil, et ça explique le rafraîchissement.
Il n'y a pas que la photosynthèse,
et non,
qui est un mécanisme par lequel les plantes utilisent la lumière du soleil.
Il y a ce deuxième mécanisme méconnu. Elles utilisent le soleil à la fois pour fabriquer du sucre, mais aussi la chaleur solaire permet d'évaporer l'eau dans les feuilles. D'où la fraîcheur sous une plante en été. Et d'où le fait qu'effectivement les plantes ont des gros besoins d'eau. Je donne par exemple dans le livre, le besoin d'eau d'une forêt de nos régions tempérées, c'est 30 tonnes par hectare. Alors ce chiffre
30
est
tonnes
par jour.
Par jour,
ouais. 30 tonnes par jour et par hectare. Alors ce chiffre, il est un peu trompeur parce qu'en fait c'est...
En moyenne,
et les jours où il y a de la sève qui circule, c'est-à-dire pas en hiver. Alors ce chiffre est trompeur parce qu'on ne se rend pas compte ce que c'est qu'un hectare. Revenons à des considérations compréhensibles. Ça veut dire 3 mm de pluie sur cet hectare. Comptez 200 jours de végétation par an. Parce qu'en hiver, même quand les plantes ont des feuilles, la sève ne circule pas. Donc, ça fait 600 mm. Ben, au-dessus de 600 mm, vous pouvez avoir de la forêt. Et s'il y a beaucoup plus que 600 mm, ça laisse encore de l'eau pour les rivières. En dessous de 600 mm, il n'y a pas de forêt. Voilà.
Mais il y a une sorte de priorité à la forêt.
Alors, premier servi, effectivement, les racines. Avec ce demi-tour qu'on disait, c'est que l'eau qui est en train de descendre dans le sol peut être aspirée par les plantes et retournée à l'évaporation beaucoup plus vite que si le sol était nu. Où on compte que ça se produirait entre 2 et 10 fois moins vite, moins intensément. Et là, il y aurait plus de ruissellement.
Alors, Marc-André Sologe, j'ai dit que je ne connaissais rien à votre sujet, mais... J'ai beaucoup appris en lisant votre livre et ma grand-mère m'avait appris des choses. Par exemple, elle m'avait dit « un bon binage vaut deux arrosages ». Est-ce qu'elle avait bon ?
Oui, elle avait bon techniquement, mais c'était une bonté cruelle. Alors, je ne voudrais pas vous décevoir sur votre grand-mère.
Impossible.
Bon, impossible, donc on peut y aller. Quand vous binez, vous cassez la surface du sol en grosses mottes. Et donc l'eau, elle a tendance à remonter dans le sol par capillarité, c'est-à-dire elle va de petit trou en petit trou en allant vers des trous de plus en plus petits qui l'aspirent de plus en plus. Mais quand elle arrive dans la couche que vous avez rendue grumeleuse en binant, eh bien là, les trous sont plus gros. Donc elle cesse de remonter, vous avez créé une couche où l'eau n'arrive plus à remonter jusqu'à l'air où elle s'évaporerait. Vous créez des économies d'eau, d'autant plus qu'en binant, vous avez arraché les plantes qui avaient là. En fait, c'est quand même cruel parce que c'est un traitement violent. On pourra peut-être reparler après du labour. Le labour aussi, c'est... Et on découvre aujourd'hui que c'est pas très bon pour la vie du sol et c'est pas des pratiques très durables parce que ça va laisser le sol nu.
Mais est-ce qu'on peut s'en passer?
S'éroder.
Est-ce qu'on pourrait s'en passer? Alors, du labour.
Oui, on sait aujourd'hui, dans certains cas, s'en passer. Je dis pas que toutes les cultures ou tous les sols sont propices à ces nouvelles façons de cultiver, mais on a aujourd'hui des agricultures sous couvert qui ont de très bons rendements et qui ne labourent plus. Parce que le labour, faut bien comprendre que c'est quelque chose que les sols n'ont jamais vécu. C'est une perturbation extrêmement violente. La preuve, c'est qu'ils deviennent nus. On est tous habitués à ces sols bruns en hiver. Et ces sols bruns en hiver, bah, dans la nature, le sol, il est jamais brun. Il est toujours couvert au moins d'une maigre végétation à la période sèche ou à la période froide. Donc ça veut dire plus d'érosion. Comme vous l'avez aéré en faisant des trous, les bactéries, les microbes du sol respirent plus vite. Ils détruisent la matière organique du sol, qui est vraiment importante pour la structuration du sol. Comme vous avez labouré, vous avez détruit les racines des plantes et aussi les filaments des champignons. Rappelez-vous que c'est des filaments délicats et microscopiques. Donc vous avez abîmé la vie du sol. Et au total, vous augmentez le labour, vous diminuez la capacité à retenir l'eau et vous perturbez les mécanismes de la vie du sol. À court terme, c'est rentable. Nos anciens s'y sont pas trompés, hein. Mais le problème, c'est que vous abîmez le sol et c'est rentable parce que vous transformez du capital, la durabilité du sol, en rendement, en intérêt, la production. Donc effectivement, vous produisez plus, mais vos sols déclinent. Par exemple, dans la Corn Belt, on estime aujourd'hui qu'à cause du labour, on a perdu 6% du rendement qu'on pourrait avoir si on avait procédé différemment.
6% depuis le début ?
Depuis le début du labour de la Corn Belt, ce qui nous renvoie en gros à la fin du 19e. Et vous savez, les Amérindiens n'ont jamais labouré, hein. Ils n'avaient pas d'animaux de trait, donc labourer, hein, il faut un animal de trait, sinon ça ne marche pas. Et ils ont fait une agriculture qui a soutenu de grandes civilisations sans labour. Eux, ils défrichaient à la main, ils arrachaient les mauvaises herbes à la main et ça compensait. En Europe, on a commencé à comprendre qu'on pouvait ne pas labourer et donc éviter tous les problèmes de perte de matière organique par la respiration accrue des microbes ou d'érosion. Quand on a eu, dans les années 50, des herbicides comme le paraquat qui permettaient de désherber quand on voulait semer la culture suivante. Aujourd'hui, l'agriculture sans labour utilise souvent le glyphosate. Alors, vous allez pousser deux au cri, et moi aussi, parce que je sais bien que le glyphosate, c'est pas si bon que ça pour la vie du sol. Mais, le labour, c'est pire. Aujourd'hui, quand on ne laboure plus et qu'on utilise du glyphosate pour éliminer les plantes qui ont poussé, ou même qu'on a semé d'ailleurs de façon intermédiaire avant de semer la récolte suivante, eh bien, on augmente quand même la vie du sol de 20 à 25%. Ça ne veut pas dire qu'il faudra un jour se passer de glyphosate, hein. Mais l'urgence, c'est d'arrêter cette claque, cette gifle qui est le labour. Et aujourd'hui, il y a aussi des gens qui arrivent par d'autres méthodes. Par exemple, en plantant des plantes gélives qui vont mourir en hiver. Il y a des gens qui ont d'autres, qui éprouvent d'autres ou des destructions mécaniques du couvert qui arrivent à
gélive. Gélive, c'est un adjectif.
Oui.
Qui veut gèle. Dire ah, qui gèle.
Eh oui. Et ces plantes-là, elles vont à la fin de l'hiver. Oui. Alors, j'ai essayé dans le livre de pas être trop sur du vocabulaire technique, mais c'est vrai qu'on a une langue qui contient plein de mots assez utiles qu'on n'utilise pas.
Parlez-nous, tiens, à propos de mots, des colloïdes. Ça a l'air d'être une grande passion chez vous.
Sacré truc. Alors, oui, et puis c'est quand même quelque chose de vital dans les sols, ces colloïdes. Alors effectivement, il y a des petites particules, notamment des argiles, mais ça peut être aussi des petites particules de matière organique, qui ont la caractéristique d'être chargées négativement. Et donc, elles se repoussent.
Électriquement négativement.
Exactement. Elles ont des charges électriques négatives, compensées d'ailleurs par des ions positifs, donc le sol est neutre. Hein. Mais elles se repoussent. Et quand on met de l'eau, eh bien elles occupent le maximum de volume. Alors ça, vous l'avez déjà vu. Vous avez déjà vu que dans l'eau, parfois, il y a une espèce de charge opaque, blanchâtre, quand de l'eau circule dans les rivières. Notamment après les pluies, c'est ces fameux colloïdes.
Un aspect un peu laiteux.
Laiteux chocolaté des fois, parfois un peu plus noir, ça dépend un peu si ces colloïdes sont plus ou moins riches en matière organique. Et ces colloïdes, en fait, quand ils partent dans l'eau, c'est pas joyeux, parce qu'en fait, comme ils sont chargés négativement, ils peuvent interagir avec de l'ammonium, du potassium, pour le retenir dans le sol. Et ce qu'on aime bien, c'est que ces colloïdes soient neutralisés par ce qu'on appelle les cations, c'est-à-dire des ions chargés positivement, parce qu'au passage, ils retiennent ces ions. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on fait des amendements calcaires dans les sols. On amène du calcium qui les piège. Alors ces colloïdes, c'est des choses qui sont au cœur de la fertilité des sols, parce que si on les a bien pourvus de cations, ils sont neutralisés, donc ils n'ont plus tendance, dès qu'il y a de l'eau, à partir dans l'eau et à occuper tout le volume de l'eau, mais ils retiennent les cations, qui sont une nourriture pour tout un tas. Potassium, calcium, magnésium, ammonium, qui sont une nourriture pour tout un tas d'organismes. À commencer par les racines.
J'ai beaucoup aimé vos pages sur le vin qui est maintenu frais au fond d'une cave. Comment ça s'explique ?
Ah, alors,
c'est la thermique des sols.
Étienne, vous avez vu le vin, mais moi je voyais surtout les propriétés thermiques des sols.
Chacun son truc.
Mais je vous comprends assez bien. Je vous comprends assez bien. Alors en fait, le sol, on a dit, il y a des trous. Et ces trous, ils sont pas tout le temps occupés par de l'eau. Ils sont assez souvent occupés par de l'air. Et ça, c'est un air qui peut pas circuler, qui peut pas bouger. Or, lorsqu'il y a des échanges de chaleur, ou un refroidissement, c'est la circulation de l'air qui va être le plus efficace pour refroidir. Vous savez, quand vous voulez refroidir une soupe, vous soufflez dessus. Et d'ailleurs, vous tournez la soupe elle-même. Là, l'air, il est emprisonné dans le sol. Il a du mal à circuler. Et en plus, l'air, lui-même, il fait obstacle à la diffusion de la chaleur. Ce qui fait que, quand l'air se réchauffe, eh bien, dans le sol, ça reste frais. Quand l'air se refroidit, par exemple en hiver, dans le sol, ça reste plus chaud. En fait, c'est une sorte de grand tampon thermique qu'utilisent les plantes comme les carottes ou les animaux comme les hannetons qui s'enterrent finalement, qui persistent l'hiver sous terre, sous forme de racines de carottes ou sous forme de larves enterrées. Et c'est ce que nous, on a utilisé très tôt. On a mis nos réserves dans des caves enfouies parce qu'elles sont plus fraîches en été et que donc la nourriture s'y conserve mieux. Et le sol, c'est quelque chose qui est très thermostaté, comme on dit, hein, la température y est régulée. Et quand on s'enfonce très profondément, alors, vous allez me dire, c'est un peu plus profond que le sol, mais quand on arrive jusqu'à une douzaine de mètres, eh bien, en fait, la température bouge plus. C'est la moyenne thermique du lieu.
Quelle que soit la saison, même les variations du jour et de la nuit ne sont pas perçues.
Voilà. Jour et la nuit, ça rentre sur quelques dizaines de centimètres maximum. Les changements climatiques, les changements de saisonniers, eux, ils rentrent jusqu'à 7-8 mètres. Après, ça s'atténue vraiment. Et à 12 mètres, vous êtes à la température moyenne du lieu.
Mais vous dites quelque part que le sol est la fourrure de la terre.
Eh bien, effectivement, les animaux sont pourvus de poils qui empêchent l'air de circuler, qui les empêchent de se refroidir quand il fait froid, ou d'ailleurs de se réchauffer trop quand il fait chaud. Et quelque part, effectivement, on a la même propriété que sur une fourrure, et beaucoup d'animaux utilisent le sol comme une fourrure. Tous ces animaux qui s'enterrent pour l'hiver, par exemple, eh bien, ils utilisent le sol comme une fourrure d'emprunt.
Et quand on dit que les sols respirent, quel sens il faut donner au verbe « respirer » dans cette phrase ?
Le sens de « habiter », c'est-à-dire que les sols sont habités. Ils sont habités d'organismes, bactéries, champignons, animaux également. Par exemple, les vers de terre.
On en reparlera parce que j'ai beaucoup de questions sur les vers de terre.
Et vous n'êtes pas le seul, hein. Darwin aussi s'était posé plein de questions sur les vers de terre.
Il a même répondu aux questions.
Et il a fait des travaux absolument remarquables. Mais en tout cas, oui, il y a une vie dans le sol absolument ébouriffante. On l'a quantifié tout à l'heure, hein, en tonnes à l'hectare. Et ces organismes-là, ils respirent. La plupart du temps, il y a assez d'oxygène pour qu'ils respirent à l'oxygène et ça fait du CO2. Et quand on dit que les sols respirent, ça veut dire qu'il y a dedans des choses qui consomment l'oxygène qui rentre à partir de l'atmosphère et qui fabriquent du CO2 qui sort du sol.
Et pas que du CO2.
Alors justement, non, pas que du CO2, parce que, et c'est là qu'on voit que le sol est extraordinairement plus divers finalement que ne l'est ce que nous on a autour de nous, où les gens, les animaux, les plantes, tout le monde respire à l'oxygène. Dans les sols, quand il n'y a pas d'oxygène, parce que le sol est ennoyé d'eau par exemple, pensez à une rizière. Pensez à des sols de régions humides, comme en Bretagne par exemple. Eh bien là, il y a des endroits où il y a des poches remplies d'eau, où il n'y a pas beaucoup d'oxygène. Et là, il y a des respirations bactériennes qui se font au CO2, ce qui produit du méthane qui sort du sol. D'autres encore, et alors surtout dans des régions où on amène des engrais minéraux comme des nitrates, respirent en utilisant à la place de l'oxygène du nitrite. Et ça donne du protoxyde d'azote, un gaz qui est connu aussi sous le nom de gaz hilarant. Et ça, le méthane, c'est 50 fois plus efficace dans l'effet de serre que le CO2. Le nitrate, qui donne du protoxyde d'azote, c'est 240 fois plus efficace dans l'effet de serre que le CO2.
Donc les sols contribuent à l'effet de serre.
Ils contribuent à réchauffer le globe. Et je vais vous dire, c'est une bonne chose jusqu'à un certain point, parce que sans effet de serre, sans ces gaz qui, dans l'atmosphère, captent les infrarouges et les restituent sous forme de chaleur, il ferait moins 18 degrés sur Terre et tout de suite l'eau prendrait en glace et l'albédo de cette glace, la réflexion vers l'espace de la lumière solaire, ferait encore baisser la température à moins 50. Donc vous et moi, on est très contents qu'il y ait de l'effet de serre. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il y en ait trop, c'est le thermostat. Hein. Ce qui compte, c'est de le régler, c'est pas juste que quelqu'un chauffe.
Et vous citez l'hypothèse d'un chercheur qui s'appelle William Rudiman qui a démontré, qui a fait l'hypothèse, je ne sais pas si c'est démontré, que l'invention de l'agriculture a modifié le climat très nettement et a empêché une glaciation.
Rudiman fait un raisonnement que moi je trouve intellectuellement remarquable. Il sait que les glaciations reviennent sous un déterminisme astronomique. au cours du Quaternaire, depuis les deux derniers millions d'années, on a eu une succession de glaciations. Et à chaque fois, quand on rentre en glaciation, des mécanismes complexes qui sont liés à la répartition de la mousson sur Terre vont faire chuter la concentration de CO2 et de méthane dans l'air et refroidir le climat. Sauf que, on devrait être rentré en glaciation, on peut prédire sur la base de paramètres astronomiques ce qu'il devrait en être de la concentration de CO2 et de méthane, et on s'aperçoit de deux choses. Brudiman nous dit, bah voilà, il y a 10 000 ans, la concentration en CO2 décroche de l'attendu et se stabilise. C'est le début de l'agriculture retournée. Quand vous retournez le sol, vous injectez de l'oxygène dans le sol et vous aidez à la respiration. Brudiman calcule que l'humanité aurait rejeté deux fois plus de CO2 par le labour depuis qu'elle laboure que depuis le début de l'ère industrielle par l'industrie. Mais à ce moment-là, ça a été stabilisateur du climat. Et puis il y a 5000 ans, c'est le méthane qui décroche. C'est-à-dire qu'au lieu de baisser comme attendu, et comme il a commencé à baisser d'ailleurs, eh bien il se stabilise. Et il y a 5000 ans, c'est le début de la riziculture inondée. Mais ce qui est fabuleux dans le travail de Brudiman, c'est qu'il se dit, bon, si l'agriculture fait ça, quand elle régresse le climat, il doit de nouveau repartir sur sa tendance refroidissante attendue. Et il regarde les effets des grandes pestes qui ont quand même dévasté la population d'Asie et d'Europe. Hein. Et la peste noire, quand même, c'est 30% de la population européenne minimum qui disparaît. Et avec un recul de l'agriculture et un retour de la forêt. Et effectivement, il propose que l'effet de ça, ce soit le petit âge glaciaire que nous avons connu jusqu'au 19e et qui a refroidi le climat après l'optimum moyenâgeux.
Mais c'est une sorte de démonstration par l'absurde.
Bah oui, c'est ça.
Est-ce que cette conclusion fait consensus?
Alors, elle fait pas consensus pour plusieurs raisons, des mauvaises et des bonnes. Une mauvaise raison, c'est que souvent, quand je lis les détracteurs de Brudiman, je vois des gens qui n'admettent pas que le sol puisse avoir cette puissance.
Mais pourtant, le rapport du GIEC montre que l'agriculture contribue beaucoup au changement du climat.
Oui, on peut même d'ailleurs proposer une autre agriculture comme une solution. Par exemple, quand on ne retourne plus, on stocke de la matière organique. Et c'est autant de CO2 qu'il n'y a plus dans l'air. Oui, absolument. Et puis, c'est vrai qu'il y a quelques prédictions de Brudiman qui sont peut-être un petit peu faites à la louche. En particulier, ce petit âge glaciaire a bien l'air de ne pas être si global que ça. Il a l'air d'être plutôt européen. Et alors, la validation par Brudiman de sa théorie par les effets de la peste serait un petit peu mise en péril. Mais la question qui se pose pour moi, c'est surtout la quantification. Voilà. Je doute pas, moi, que l'agriculture ait contribué à changer le climat. La question, c'est jusqu'à quel niveau parmi d'autres paramètres.
Il faut qu'on, puisque le temps passe, il faut qu'on parle un petit peu de ce que nous faisons au sol. Les actions, les choses qui les abîment. Qu'est-ce qui se passe, par exemple, quand on construit une ville sur le sol? Qu'est-ce qu'il advient de la vie souterraine?
Ben, localement, quand vous bétonnez, il va encore y avoir de la vie. Vous savez, de la vie, il y en a même dans le minéral jusqu'à 5-10 km de profondeur. Mais pas beaucoup, pas très active. Rapidement, quand vous cessez d'amener de la matière organique parce que vous avez bétonné. D'ailleurs, vous avez remarqué que les surfaces bétonnées ou bituminées, on est obligé de les balayer. Parce qu'il n'y a plus la digestion de la matière organique par le sol, cette lente digestion et cette lente respiration dont on parlait. Donc, la vie du sol s'arrête, ces sols-là sont morts. Éventuellement, vous avez un peu décapé le sol et vous l'avez emmené ailleurs, je sais pas moi, pour faire des étendues ornementales en ville ou des toits végétalisés. Bon, vous avez peut-être pu sauver une partie du sol, mais clairement la vie s'arrête. Et puis, si jamais vous rouvrez ces sols, bah, surtout les sols qui ont, au début du XXe siècle, subi des activités industrielles qui étaient peu régulées, souvent vous découvrez des sols où se sont accumulés des métaux lourds à cause des activités qu'il y avait au-dessus, ou des hydrocarbures, y compris des hydrocarbures aromatiques qui sont extrêmement toxiques. Donc vous découvrez des sols où...
Ou des plastiques.
Vous découvrez des sols finalement qui sont plus tellement régénérables, en tout cas pas régénérables pour l'agriculture.
Parce que ça veut dire que la qualité des sols en moyenne à la surface de la Terre se dégrade.
Oui, ben oui, oui. Oui, et c'est d'ailleurs une des inquiétudes du GIEC et aussi d'un certain nombre d'autres institutions. On compte que la dégradation des sols affecte aujourd'hui plus de 3,2 milliards de personnes. Et on compte que cette dégradation de certains sols va arriver à un point qui va forcer à migrer entre 50 et 70 millions de personnes d'ici 30 ans. Pardon, entre 50 et 700 millions de personnes d'ici 30 ans. Alors c'est quoi cette dégradation? Bah, c'est l'érosion. largement à cause du labour, voire du surpâturage. Si vous voulez voir ce que ça donne, l'érosion, à terme, allez vous balader autour des grandes villes de la Grèce antique ou de la Rome antique. Vous avez des plaines caillouteuses, des sols maigres, et vous dites « Ah oui, les sols méditerranéens sont pas riches ». Mais croyez-vous vraiment qu'on a pu bâtir de telles cités ailleurs qu'au milieu de grandes plaines agricoles fertiles ? Alors bien sûr, il y a eu du changement climatique, ça c'est sûr. Dans l'Antiquité, les pluies sont en été, donc en zone méditerranéenne, donc c'est pas le même climat, mais ça explique pas où sont partis les sols. Hein. Donc, la première chose, c'est cette érosion. La deuxième, c'est que ces sols, ils sont de plus en plus chargés de pesticides. Dans la plaine de Chizée, par exemple, une étude a révélé que 90% des sols étaient pollués par au moins un insecticide, un herbicide et un fongicide. Et que 40% d'entre eux étaient pollués par plus de 10 molécules. Aujourd'hui, à l'échelle globale, on compte que, parce que d'autres pays sont en retard sur nous, la plupart des sols, enfin 40% des sols sont pollués par des pesticides en général. Donc on a une perte de qualité. Puis on a ces microplastiques que vous dites. Alors, vous en parliez tout à l'heure. Le plastique, il ne se décompose pas, donc il se fragmente. Et à la fin, les fragments, bah, ils se baladent avec l'eau et avec l'air. Et ils tombent sur les sols. En plein milieu des parcs américains, où il n'y a bien sûr pas de dépôt de plastique, ils tombent 20 kg par hectare et par an de microplastique. Et ces microplastiques, dans les sols, ils en modifient complètement les propriétés par rapport à l'eau. L'eau y rentre plus facilement, alors vous allez dire « Hourra !» Eh oui, mais elle est drainée plus facilement parce qu'ils sont hydrophobes, ils n'aiment pas l'eau. Sans compter que ces plastiques, en se décomposant, ils libèrent des molécules qui sont des perturbateurs endocriniens et qui perturbent la vie des habitants des sols. Mais ces perturbateurs endocriniens, ils rentrent dans vos carottes et ils finissent dans votre ventre.
C'est ça qui explique que certains cadavres ne se décomposent plus.
Alors ça, c'est notre pollution. On ne comprend pas bien pourquoi, mais c'était remarqué en Allemagne, c'est que les cadavres se décomposent plus dans les cimetières. Et effectivement, il y a sans doute l'accumulation des médicaments et des traitements qu'on a eu dans la vie et éventuellement en fin de vie. Il y a aussi ces molécules que l'on met pour conserver nos cadavres. Pour
des médicaments qui sont dans les cadavres en question, dans les sols.
Mais qui font que du coup les microbes ont bien du mal à monter à l'assaut d'un truc qui est chimiquement pas très correct. Et puis il y a aussi une chose, c'est qu'on met maintenant des choses pour conserver les corps le temps que toute la famille trouve un trou dans son emploi du temps pour enterrer le proche. Et du coup on arrive à des cadavres où on peut plus faire de réduction. C'est-à-dire qu'on peut plus réduire les cadavres à un petit tas d'os dans une plus petite boîte, ce qu'on fait régulièrement pour libérer de la place dans les caveaux familiaux.
C'est parce que l'humus rechigne à décomposer les corps.
Bah c'est toxique.
Il devient fainéant.
Mais c'est surtout que on pense qu'il a bien du mal à attaquer ça parce que c'est plein de toxines qui sont antimicrobiennes. Alors ces toxines antimicrobiennes, elles sont utiles pour conserver le cadavre un certain temps ou pour lutter contre des maladies. Mais elles sont aussi valables contre les décomposeurs, ceux qui devraient normalement faire disparaître ces cadavres.
À propos des pesticides, Marc-André Soulages, j'ai une belle anagramme trouvée par Olivier Garcia. Quel est l'anagramme, d'après vous, de aspersion de pesticides ?
Alors là, je donne ma langue au chat.
Ça donne disparition des espèces.
Alors là, je le note. Aspersion de pesticides. Excellent.
Disparition des espèces.
Exact.
Parlons de Darwin et des vers de terre. Je le cite. Darwin écrit en 1881. Ah, vous le savez mieux que moi, il faut que je retrouve la page.
C'est son dernier livre, hein, mais il a travaillé là-dessus depuis le début de sa carrière.
La formation de la terre végétale par l'action des vers. Voilà ce qu'il dit. Il est arrivé à la déduction que toute la terre végétale du pays est déjà passée de nombreuses fois par les voies digestives des vers et y passera encore beaucoup. Ça fait froid dans le dos.
Oui, mais c'est parce qu'en fait, les vers de terre, ils ont une nutrition très particulière. Mais effectivement, quand vous avez un sol à vers de terre, tout le sol passe dans le tube digestif des vers de terre tous les 3 à 5 ans. Alors pourquoi ? Le vers de terre, on croit qu'il mange de la matière organique végétale en décomposition, mais en fait, il l'ingère. Ce qu'il digère vraiment, c'est les microbes. Pour faire ça, il faut qu'il broie bien cette matière et il prend des petits morceaux de sable qui vont dans son gésier, comme dans le gésier des poules, il y a des petits cailloux, broyer la matière organique et bien extraire le jus de microbes. Mais en faisant ça, il va libérer les toxines qu'il y a dans les tissus végétaux. Vous savez que les plantes sont souvent toxiques, il y a des tanins, des terpènes. Enfin, faut pas manger n'importe quelle plante quand on est dehors, quand on est into the wild, si vous voyez ce que je veux dire. Et pour le coup, comme c'est toxique, ils avalent de l'argile, qui fait un peu comme nous quand on mange du smectac, qui est une argile aussi, ça va absorber et retenir dans le tube digestif toutes ces toxines. Du coup, il va se retrouver avec un énorme volume minéral, qu'on retrouve d'ailleurs dans les turicules, qui sont les crottes de vers de terre, et où on retrouve aussi la matière organique, parce qu'il y a tout ce qu'il n'a pas digéré, qui est la matière organique de la plante. Il n'a digéré que la matière organique des microbes. Et un microbe, un vers de terre, pardon, doit manger 20 fois son poids chaque jour. Enfin, ingérer 20 fois son poids. Et en plus, alors je vais vous dire un truc, dans les crottes, il y a de la matière organique broyée, donc les microbes vont se développer, mais il y a déjà des grains de sable et il y a déjà de l'argile. Donc pour le vers de terre, 5 ou 6 jours plus tard, la crotte, c'est un aliment frais. Alors c'est un peu récurrent, mais ça repasse parce qu'en fait, dans la crotte, il y a des restes de matière organique qui vont faire se développer des microbes.
Vous voulez dire qu'il a une alimentation cyclique ?
Oui, et c'est pour ça que le sol repasse. C'est qu'effectivement, comme il n'a pas digéré la matière végétale, il y a encore la matière végétale, donc il y aura des microbes qui se développeront dessus. Mais cette fois-ci, ces microbes et cette matière végétale qui restent, eh ben, il y aura l'argile et les grains de sable. Donc il n'y aura même pas à se fatiguer. Par contre, il faut en manger beaucoup parce qu'il y a tout ce volume minéral qui transite.
Mais est-ce que c'est ça qu'on appelle la bioturbation ?
La bioturbation, c'est plutôt le résultat. Le résultat du fait qu'il prélève souvent en profondeur ces substances. Et puis, comme il vit dans un tube, ben, il peut pas faire ses turicules, il peut pas faire ses crottes, pour parler plus trivialement et moins scientifiquement. Il peut pas faire ses crottes dans le tube, sinon il bouche son tube. Donc il sort pour faire caca. Et en faisant ça, il dépose ses crottes à la surface du sol sur tout ce qui est tombé. Et d'un sol à vers de terre, les objets qui sont à la surface s'enfoncent, à l'inverse du labour. Darwin avait repéré ça, qui avait mis un petit peu de poudre de craie dans son jardin, et qui d'année en année suivait l'enfoncement de la poudre de craie. Il en avait défini une vitesse d'enfoncement qui lui avait servi à calculer l'âge d'un certain nombre de sites archéologiques. En quoi il s'était planté, par contre ? Parce que, arrivé à une certaine profondeur, il est peu probable qu'un ver de terre vienne prendre de la matière par en dessous. Donc cette vitesse s'annule progressivement. Mais Darwin avait bien montré que les vers de terre, en fait, enfoncent ce qui arrive à la surface de la terre, et ce mélange où les feuilles qui tombent s'enfoncent, tandis que de la matière minérale prélevée par les vers de terre remonte en surface, ce mélange, c'est un des faciès de cette conséquence de la vie animale sur terre, qui est de bouger, de brasser les choses, la bioturbation.
D'accord, ça j'ai compris. Mais ce que je comprends en vous écoutant, Marc-André Solos, c'est que, vous l'avez dit, les sols se dégradent en moyenne, mais on comprend de mieux en mieux ce qui s'y passe.
Ouais, alors ça, c'est
et comment le fait de mieux comprendre ne permet pas d'améliorer ?
C'est le bug humain, hein, paraphraser le titre d'un ouvrage assez remarquable qui montre comment l'intelligence est peut-être apparue trop tôt dans l'évolution ou pas dans les organismes tout à fait à même. D'en tirer parti, un certain nombre de contentements à court terme font qu'on fait éventuellement l'inverse de ce qu'on sait être bon à long terme. Et par exemple, c'est vrai que produire plus en dégradant le sol, ben, après moi le déluge, quelque part, on continue à produire beaucoup avec des méthodes comme les pesticides ou les engrais minéraux ou le labour qui détruisent un certain nombre de mécanismes qui rendent le sol durable.
Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire en priorité ?
Alors, en priorité, on l'a dit tout à l'heure, faut pas labourer. Ça, le labour, c'est le pire. Ensuite, il faut arrêter les pesticides. Mais vous voyez, il y a un ordre, on ne peut pas tout faire en une étape. Donc, il y a un ordre de sortie. Il faudrait aussi arrêter, et ça on peut le faire assez vite, les engrais minéraux. Parce qu'il faut se rappeler, les engrais minéraux, c'est amener de l'azote, du phosphate, du potassium. Comment ça arrive normalement ? Ça arrive avec de la matière organique morte, qui tombe à terre et qui est lentement dégradée par la vie microbienne. Parce que la respiration, ça produit des déchets comme du CO2, mais ça produit aussi de l'azote, du phosphate et du potassium minéral qui va retourner dans la nutrition des plantes. En fait, aujourd'hui, on a des routines qu'on sait d'ailleurs appliquer. Il y a des gens qui font de l'agriculture sur sol couvert ou de l'agriculture dite de conservation, qui sont des méthodes agricoles qui protègent les sols. Mais comme les gens sont peu conscients de ce qui se passe dans les sols, aujourd'hui, autant le bio a un label, autant l'agriculture de conservation n'en a pas. Le bio, il est bien pour les sols parce qu'il a remplacé les engrais minéraux par des engrais organiques, donc il remet de la matière organique dans les sols, ça stocke du carbone et c'est bon contre l'effet de serre, et puis ça nourrit les microbes du sol, et ça c'est génial, mais il laboure. Donc c'est pour ça que moi j'ai fait ce bouquin, c'est pour
mais expliquer quand vous aux dites gens... Ça, en tant que scientifique, est-ce que vous êtes entendu par les gens qui s'occupent justement des sols ? Les agriculteurs,
plus
mais
ou
pas
moins,
seulement eux.
Il y en a beaucoup qui me demandent de venir en parler. Il y a une génération d'agriculteurs qui se lève et qui a, bien avant que la science s'en empare, remarqué que les sols allaient pas si bien, qui s'érodaient beaucoup et qui a commencé à mettre en œuvre ces pratiques. Mais c'est une toute petite fraction et ce qui m'ennuie, c'est qu'aujourd'hui, l'extension de leur lutte, c'est de créer des consommateurs qui sont conscients de ce problème et qui cherchent des labels de sols vertueux. Et ça veut dire que, bon, j'ai aussi fait une petite BD chez Dargo avec un dessinateur belge talentueux, Mathieu Burnia. On a une salle dans l'exposition actuellement au muséum L'Odyssée Sensorielle où les gens sont dans le sol, odeur, image, son. il y a plusieurs écosystèmes qui sont présentés comme ça, en immersion complète. J'en ai mis dans les programmes de seconde, ayant eu la chance de faire partie de la commission donc, qui s'occupe des programmes. Et comme c'est la dernière année où il y a des SVT, la seconde, ben, on a mis dans le programme de sciences de la vie et de la terre du sol. Il y a, par plein de moyens, il faut sensibiliser le citoyen.
Ça sera le mot de la fin. J'ai encore 23 questions, mais on n'a plus le temps. Je suis désolé. Merci à vous, Marc-André Chelos. Je recommande la lecture de votre livre « L'origine du monde ». Avec comme sous-titre « Une histoire naturelle du sol à l'intention de ceux qui le piétinent », paru chez Actes Sud. C'est un plaisir de vous recevoir.
Merci.
Il faudra revenir pour compléter vos réponses. C'était « Science en question » par Étienne Klein, avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la prise de son Jacques Hubert. Jacques, c'est breton. Vous êtes breton, vous aussi ?
Et oui, de Belle-Île.
Et à la réalisation, Luc-Jean Reynaud.